إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture du livre de l'imam Ibn Baz, رحمه الله تعالى, intitulé « Leçons importantes pour toute la communauté ». Nous en sommes aujourd'hui à la troisième leçon que l'auteur, رحمه الله تعالى, a intitulée « Les piliers de la foi ». Il dit, رحمه الله, « Les piliers de la foi sont au nombre de six. C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin qui vient d'Allah, qu'il soit bon ou mauvais. » Ceux-ci sont donc les six piliers de la foi, al-Iman, qui est le deuxième degré de la religion, comme il est venu dans le hadith Jibril, alayhi salam, que l'on a déjà vu pour ceux qui ont suivi avec nous l'étude du livre « Les trois fondements ». Et al-Iman, la foi, elle a été définie chez les gens de la sunna comme étant croyance du cœur, parole de la langue, acte du corps. Elle augmente par l'obéissance à Allah et elle diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont donc les cinq points essentiels définissant la foi chez les gens de la sunna et du groupe. Une croyance du cœur, une parole de la langue, un acte du corps, et cela augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous peut ressentir cette baisse ou cette hausse de foi en fonction de sa situation. Et le musulman se doit d'être attentif à cela, attentif à sa foi. Lorsqu'il ressent que sa foi baisse, il doit s'empresser de se reprendre et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en multipliant les actes de bien afin de se rapprocher de son Seigneur et en diminuant les péchés et en s'en repentant, recherchant également par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici on ne va pas développer ce qui concerne la définition de la foi que l'on a déjà abordée lors de notre étude des trois fondements, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont suivi ces cours avec nous. Mais on va plutôt s'attarder, incha'Allah ta'ala, sur les piliers de la foi, qui sont au nombre de six, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné. Le premier de ces piliers, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus important des piliers. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique la foi en quatre choses. Premièrement, que tu crois en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que tu crois en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, le possesseur, celui qui administre tout dans cet univers. Troisièmement, que tu crois en la divinisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré et qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et quatrièmement, que tu crois au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu crois en tous les noms et tous les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même dans son livre ou dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce de la manière qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala, sans altération ni négation, sans chercher à connaître le comment et sans assimilation à ses créatures. Et ces trois derniers points, on les verra incha'Allah ta'ala lors de notre lecture de la quatrième leçon traitant des catégories de tawhid et des catégories de shirk. Mais ici, nous allons nous arrêter simplement sur le premier point, qui est le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé ses serviteurs sur la fitra, c'est-à-dire sur la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala crée l'homme, et que de par sa fitra, l'homme reconnaît l'existence de son créateur. Il y a malheureusement aujourd'hui un fort appel à l'athéisme et au fait de renier l'existence du créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que certains parmi les gens de science ont donné une grande importance au développement de ce point. Donc l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, elle est prouvée par différentes choses, et parmi elles, la fitra, la saine nature sur laquelle l'homme a été créé. C'est-à-dire que lorsque l'homme vient au monde, sans avoir à réfléchir Et sans avoir à recevoir un quelconque enseignement, il sait de par sa fitra, de par sa saine nature, qu'il a un créateur. Et aucun homme ne dévie de cette nature, si ce n'est celui qui a été atteint par une cause parmi les causes de la déviation. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, tout enfant né sur la fitra, tout enfant né sur la saine nature, c'est-à-dire en reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son créateur. Puis ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou adorateur du feu. C'est-à-dire que c'est eux qui vont le faire dévier de la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, qui est l'islam. Également parmi les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est les preuves liées à la raison, les preuves rationnelles. C'est-à-dire que toutes ces créatures qui existent, ou qui ont existé, ou qui existeront dans le futur, elles ont inévitablement un créateur qui les a créées, qui leur a donné la vie. Car il est impossible qu'une créature se donne vie à elle-même, ou alors qu'elle ne soit que le fruit du hasard. Car toute chose, parmi les créatures, avant d'exister, elle n'est que néant. Elle n'existe pas. Donc, il n'est pas possible pour elle de se créer. Et au vu de la parfaite organisation à laquelle sont soumises les créatures, en totale harmonie, avec différents éléments qui interagissent les uns avec les autres. Tout ceci nous prouve que cette création que nous sommes et dans laquelle nous vivons ne peut pas être le fruit du hasard. Car une chose qui apparaîtra par hasard, elle n'aura aucune organisation. Alors que dire de cette création qui est soumise à cette organisation en parfaite harmonie, et ce, depuis des siècles, et continue quotidiennement. Donc étant donné que les créatures n'ont pas pu se créer elles-mêmes, et qu'elles ne peuvent pas être le fruit du hasard, donc c'est qu'elles ont un créateur qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé cet argument rationnel dans le Coran, s'adressant aux mécréants. Il dit subhanahu wa ta'ala, « Am khuliqu min ghayri shay'in ?» Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'ils aient été créés sans créateur, ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Donc, leur créateur est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, Am khalaqus samawati wal ard, bal la yuqinun. Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Am indahum khaza'inu rabbik, am humul musaytirun. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Il est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala que lorsque Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets de sourate at-Tur, il dit alors « Mon cœur a failli s'envoler » et ce fut la première fois que la foi al-Iman entra dans mon cœur. C'est-à-dire que cette preuve rationnelle qu'il a entendue du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été la cause pour faire entrer la foi dans son cœur. Et il n'y a pas de mal à utiliser ce genre d'argument lorsque l'on s'adresse à quelqu'un qui renie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses que certains de nos professeurs nous mentionnaient à ce sujet dans certains cours, il y a une histoire dont je ne connais pas l'authenticité, mais de laquelle on peut tirer certaines leçons, et qui est qu'un homme se serait un jour rendu dans un congrès afin de débattre avec des gens qui reniait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est alors venu avec une ampoule et a commencé tout d'abord à leur montrer comment l'ampoule était faite, c'est-à-dire à décrire les différents éléments de l'ampoule, comment elle s'allume, comment elle s'éteint et ainsi de suite. Il leur a ensuite demandé qui a fabriqué cette ampoule. Alors les gens ont mentionné qui était l'inventeur de cela et ainsi de suite. Il leur a alors dit non, cette ampoule s'est créée elle-même. Où est le fruit du hasard? Ils ont alors tous réfuté cette affirmation, et ont mentionné des choses évidentes prouvant que cette ampoule ne pouvait pas être le fruit du hasard, et qu'elle n'avait pas pu se créer elle-même, et ainsi de suite, étant donné sa perfection. Il leur a alors dit, « Et que dites-vous de cet astre, qui se lève chaque matin et se couche chaque soir, en parlant du soleil? Pensez-vous que celui-ci n'a pas de créateur ?» Il les laissa alors sans réponse. En effet, l'être humain, il ne reconnaîtra jamais qu'un objet, avec ses différentes caractéristiques, ces différentes options et ainsi de suite, puissent être le fruit du hasard. Alors que dire de la création de nos propres personnes, la création des cieux, la création de la terre, du soleil, de la lune et ainsi de suite? Il n'y a pas de doute que toutes ces créatures ont bel et bien un créateur qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qui est venu dans les textes, et notamment dans le Coran. Car tous les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils démontrent l'existence d'Allah, et notamment à travers les lois qui s'y trouvent. Méditez sur les lois parfaites de la législation. On voit qu'elles ont été légiférées dans notre intérêt, et ceci est une preuve qu'elles proviennent de notre Créateur subhanahu wa ta'ala, qui a parfaite connaissance de nos intérêts étant donné que nous sommes ses créatures. Et également, on trouve dans ce livre des informations qui sont aujourd'hui vérifiées par l'expérience et qui sont une preuve qu'elles proviennent du Seigneur de l'univers qui est capable de créer ce dont il nous a informé dans son livre. Enfin, quatrièmement, parmi les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qui est lié à l'expérience, ou plutôt les preuves concrètes ou perceptibles. Et entre dans cela le fait que l'on observe et que l'on témoigne du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à ceux qui l'invoquent et implore son aide et son secours. Et ceci est une preuve de son existence subhanahu wa ta'ala. Il dit dans son noble livre « أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ » N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui repousse le mal? Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'invocation de ses serviteurs lorsqu'il l'invoque, ceci est une chose réelle et vécue par nombre d'entre nous, et ce jusqu'à nos jours. À partir du moment où la personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala est sincère et s'en remet sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle remplit les conditions d'exaucement des invocations, alors Allah subhanahu wa ta'ala répond à son invocation. Comme il dit subhanahu wa ta'ala « وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي » Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Et ceci est une preuve concrète de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut mentionner également à ce sujet les miracles des prophètes, alayhimu salatu wassalam, qui sont des choses qui ont été vues et dont les gens ont entendu parler et qui sont une preuve irréfutable de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui a envoyé ses messagers. Et on parle notamment ici des événements qui sont au-dessus des capacités humaines, comme par exemple le miracle de Moussa alayhi salam, Moïse, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de frapper la mer avec son bâton. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Alors, nous avons révélé à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Également, il y a le miracle de Isa alayhi salam, qui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité les morts. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et également, en ce qui concerne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le peuple de Quraysh demandait de lui un miracle, il leur montra la lune de sa main, et c'est alors qu'elle se fendit en deux. Et beaucoup de gens ont observé de leurs yeux cet événement. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, un signe, un miracle, ils s'en détournent et disent, c'est une magie persistante. Donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, elle implique cela, le fait de reconnaître l'existence d'Allah, de reconnaître sa seigneurie, de reconnaître qu'il est le seul endroit d'être adoré, et de reconnaître ses noms et attributs. Et les trois derniers points, on les verra, inshallah ta'ala, dans la prochaine leçon, car ce sont les trois catégories du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle te permet de concrétiser cet ordre immense, qui est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ne voues tes actions à nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu n'adores qu'Allah en dehors de tout autre que lui, et ce par espoir de sa récompense et crainte de son châtiment. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle va te permettre également de parfaire l'amour que tu voues à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et ce par la connaissance de ses noms et ses attributs parfaits. Et également la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle va te permettre de concrétiser son adoration, et ce, en mettant en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, et en t'écartant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Passons maintenant au deuxième pilier de la foi, qui est le fait de croire aux anges. Les anges, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie du monde de l'imperceptible ou de l'invisible, al-ghayb. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait des anges des créatures soumises à ses ordres. Il les a créés de lumière et leur a donné une force, une capacité, leur permettant de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer, et ils ne s'en lassent pas. Ils proclament sa pureté nuit et jour, et ne s'interrompent jamais. Et les anges, ils sont très nombreux. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le nombre d'anges qu'il a créés. En effet, il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au sujet d'Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée, que chaque jour, 70 000 anges prient dans Al-Bayt al-Ma'mour. Et lorsque ces anges en sortent, ils n'y retournent plus jamais. Et ceci, quotidiennement. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 70 000 anges qui rentrent dans Bayt al-Ma'mour afin de prier. Ils sortent de cet endroit, ils n'y retournent plus jamais. Ceci vous donne un aperçu du grand nombre d'anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et la foi aux anges, elle implique quatre choses. Premièrement, de croire en leur existence et de ne pas remettre en question l'existence des anges, car Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé dans son noble livre, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah, et ceci est une chose incontestable. Deuxièmement, il y a le fait de croire particulièrement aux anges dont le nom nous a été mentionné dans les textes, à l'exemple de Jibril alayhi salam. Quant à ceux dont le nom ne nous a pas été mentionné et que nous ne connaissons pas, alors il est obligatoire pour nous d'y croire de manière générale. Nous croyons à leur existence, même si nous ne connaissons pas leur nom. Troisièmement, la foi aux anges, elle implique le fait de croire en leurs caractéristiques qui nous ont été décrites dans les textes. À titre d'exemple, Jibril alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu sous sa forme dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et il nous l'a décrit comme possédant 600 ailes et comme remplissant l'horizon. Donc il est obligatoire pour nous de croire en cela. Également, nous savons qu'un ange, il peut par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin de se soumettre à son ordre, se montrer sous une apparence humaine. À l'exemple de Jibril alayhi salam, lorsqu'il fut envoyé à Maryam, la mère de Isa alayhi salam, Marie la mère de Jésus. Il vint à elle sous l'apparence d'un homme parfait. Et également Jibril alayhi salam, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme, comme on l'a vu dans le célèbre hadith Jibril alayhi salam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et que Jibril vint sous l'apparence d'un homme, habillé de vêtements blancs et aux cheveux très noirs, et ainsi de suite jusqu'à la fin du hadith. Quatrièmement, la foi aux anges, elle implique le fait de croire avec certitude aux actes qu'ils accomplissent sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le fait de proclamer sa pureté, et le fait qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour sans aucune lassitude. Ceci fait partie des actes des anges de manière générale. Et de manière plus particulière, il y en a certains parmi eux qui ont des missions spécifiques. Par exemple, Jibril alayhi salam, il a été chargé de la révélation. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie aux prophètes et aux messagers avec la révélation. Également, il y a Mikaïl alayhi salam, qui est chargé de faire tomber la pluie et de faire pousser la végétation. Il y a également Israfil alayhi salam, qui est chargé de souffler dans la trompe, et ce, à la venue de l'heure et à la venue de la résurrection. Également parmi les anges, il y a l'ange de la mort, celui qui est chargé de retirer l'âme du corps à la mort d'une personne. Également, il y a Malik, celui qui est chargé de surveiller l'enfer. Également parmi les anges, il y a ceux qui sont chargés des fœtus dans le ventre de leur mère. Comme il est venu dans le hadith authentique, que lorsque le fœtus atteint l'âge de 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange et lui ordonne d'écrire 4 choses pour ce fœtus. Sa subsistance, la date de sa mort, ses actions, et s'il sera heureux ou malheureux. Également parmi les anges, il y a ceux qui se chargent d'inscrire nos actes les actes de chaque serviteur. Également, il y a les anges chargés de questionner le mort lorsqu'il est placé dans sa tombe. Ils viennent et lui posent ces trois questions qui sont: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est ton prophète? Et ainsi de suite parmi les actes des anges qui nous ont été mentionnés dans les textes du Coran et de la Sunna authentique. Il incombe à tout musulman de croire en cela avec certitude. Et cela engendre sur toi de nombreux bénéfices. Parmi ces bénéfices, le fait de croire aux anges, de croire en leurs noms, en leurs caractéristiques, en leurs actions, cela te fait prendre conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, médite simplement sur la grandeur de Jibril, qui possède 600 ailes, qui remplissent l'horizon, comme nous l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si telle est la description de Jibril alayhi salam, alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son créateur? Donc la grandeur des créatures, elle nous prouve la grandeur de leur créateur. Également, la foi aux anges, elle te permet de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela te montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de ses créatures. Regarde, il a chargé des anges afin d'écrire tes actes. Il a chargé un ange de faire tomber de la pluie et de faire pousser la végétation. Il a chargé des anges afin de te préserver et te protéger. Et ainsi de suite, parmi les actes des anges. Tout ceci te prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte une grande attention à ses serviteurs. Et ceci te pousse à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les bienfaits dont tu vas profiter de par la foi aux anges, il y a le fait que tu vas les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce de par les nombreuses adorations qu'ils accomplissent pour Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'ils ne lui désobéissent jamais. Toutefois, ce sont des créatures qui font partie des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, des serviteurs honorés, mais ils ne doivent pas être adorés. Ils doivent simplement être aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, car l'adoration est un droit exclusif de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le troisième pilier de la foi est la foi aux livres, c'est-à-dire les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses messagers, et ce par miséricorde envers les créatures, afin de leur montrer le droit chemin leur permettant d'atteindre le bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et la foi aux livres, elle implique également quatre choses. Premièrement, que tu crois avec certitude que ces livres ont vraiment été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que tu crois aux livres dont nous avons connaissance du nom, comme le Coran qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, Moïse, l'Évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam, Jésus, et le Zabur qui a été donné à Daoud alayhi salam. Il y a également des livres dont nous ne connaissons pas le nom, car il ne nous a pas été mentionné dans les textes, ni du Coran, ni de la Sunna. Donc cela, on se doit d'y croire de manière générale, même si nous ne connaissons pas leur nom. La troisième chose qu'implique la foi aux livres, c'est le fait de croire en la véracité des informations qui s'y trouvent, et notamment celles contenues dans le Coran, ou celles qui n'ont pas été falsifiées et qui sont dans les livres précédents. La quatrième chose impliquée par la foi aux livres, c'est le fait que tu œuvres en mettant en pratique les lois et les règles religieuses qui s'y trouvent et qui ne sont pas abrogées. Que tu sois satisfait de cela et que tu t'y soumettes pleinement. Et ce, que tu comprennes la sagesse de ces règles religieuses ou non. Tout en sachant que tous les livres qui ont précédé le Coran ont tous été abrogés par ce dernier. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet:
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ.
Et sur toi, ô Muhammad, nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour avoir autorité sur lui. Il n'est donc pas permis de suivre ce qui est venu dans les livres qui ont précédé le Coran, sauf s'il s'agit d'une chose qui n'a pas été falsifiée et qui est prouvée par le Coran, c'est-à-dire que le Coran est venu confirmer. Et la foi aux livres, elle a également de nombreux bienfaits pour toi. Premièrement, de la même manière que la foi aux anges, cela te montre l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte sur ses serviteurs. Car il a envoyé à chaque peuple un livre afin de leur montrer le droit chemin à suivre, afin de trouver le bonheur ici-bas et de trouver le bonheur dans l'au-delà, c'est-à-dire pour leur clarifier le chemin menant
au paradis éternel. Tu dois donc être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Également parmi les bienfaits de la foi au livre, il y a le fait qu'il te permette de prendre conscience de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a légiféré pour chaque nation des lois religieuses qui conviennent à leur situation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Ceci fait donc partie des bienfaits de la foi au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Le quatrième pilier de la foi, c'est la foi aux messagers, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont reçu l'ordre de transmettre cette révélation. Et le premier des messagers est Nuh alayhi salam. Et le dernier d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Nous t'avons fait une révélation de la même manière que nous fîmes une révélation à Nuh et aux prophètes venus après lui. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, dans le long hadith au sujet de l'intercession, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'au jour de la résurrection, les gens se rendront auprès de Adam alayhi salam afin qu'il intercède en leur faveur. Et Adam alayhi salam refusera et il leur dira « Dirigez-vous vers Nuh alayhi salam qui est le premier des messagers envoyés par Allah aux gens sur terre. » Donc ce hadith est une preuve explicite que Nuh alayhi salam est le premier des messagers aux gens sur terre. Et toutes les communautés ont reçu un prophète ou un messager. Soit un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala avec une législation spécifique à sa communauté, soit un prophète venu pour revivifier la législation d'un messager l'ayant précédé. Et chacun d'entre eux est venu avec le même message de base. Et quel est ce message? C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui, et de rejeter, de renier l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah », c'est-à-dire vous et un culte exclusif à Allah, et écartez-vous du tarout, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses importantes à savoir au sujet des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam, c'est qu'ils sont des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils sont des êtres humains qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créés et qu'ils ne possèdent aucune caractéristique de la seigneurie et qu'ils n'ont pas le droit d'être adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au sujet de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes et la meilleure des créatures. Il dit à son sujet, قُلْ dit, ô Muhammad, لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage sauf ce qu'Allah veut. Donc si telle est la situation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes et des messagers, qui est même le meilleur des hommes, alors que dire d'autre que lui? De même, il est important de savoir que malgré leur rang éminent, le rang éminent qu'occupent les prophètes alayhi salatu wa sallam auprès d'Allah, ils sont atteints par tout ce qui peut toucher les êtres humains, comme la maladie, la mort, le besoin de se nourrir, le besoin de boire, et ainsi de suite parmi les besoins de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet d'Ibrahim alayhi salam, alors qu'Ibrahim décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir puis me redonnera la vie. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, dans un hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, « Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il peut m'arriver d'oublier comme vous. S'il m'arrive d'oublier, alors rappelez-moi. On voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait être touché par l'oubli. Il est important de rappeler cela, car comme vous le savez, il y a aujourd'hui des gens qui ont donné au prophète les caractéristiques de seigneurie ou des caractéristiques de divinité, et qui ont pris certains prophètes comme divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en les invoquant, en implorant leur secours et leur aide, en leur adressant leurs demandes, au lieu de les adresser à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la croyance au prophète et au messager, alayhimu salatu wa salam, elle implique quatre choses également. Premièrement, croire que leur message provient réellement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci signifie que celui qui renie le message d'un seul des prophètes envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme s'il avait renié tous les prophètes. En effet, médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans son noble livre, « كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ » Le peuple de Nuh, le peuple de Noé, traita de menteurs les messagers. On a vu que Nuh, alayhi salam, c'est le premier des messagers envoyés aux gens sur terre. Donc comment son peuple a pu traiter de menteurs les messagers? La réponse est qu'en traitant de menteur Nuh, alayhi salam, c'est comme s'ils avaient traité de menteur l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam. À partir de là, on comprend que les juifs qui prétendent suivre Moïse, suivre Moussa, alayhi salam, ou les chrétiens suivre Jésus, Isa, alayhi salam, ils ont en réalité traité de menteur Moïse et Jésus. Car Moïse et Jésus, Moussa, Isa, alayhim assalam, ils ont tous deux annoncé la venue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les juifs, de par leur mécréance en Isa alayhi salam, en Jésus et en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont de par cela mécru également en Moïse, en Moussa alayhi salam. Et les chrétiens, en reniant le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont ainsi renié le message de Jésus, de Isa alayhi salam. Et ça, c'est très important à comprendre. Car le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé différents prophètes et différents messagers, alayhimu salatu wa salam, cela ne signifie pas que la personne a le choix de suivre celui qu'elle souhaite. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, puis qui ne croit pas en moi, si ce n'est que sa destination sera l'enfer. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, si Moussa, si Moïse, était vivant, alayhi salam, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire qu'il aurait suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Jésus, lorsque Isa alayhi salam redescendra sur terre à la fin des temps, il jugera par la législation de qui? Par la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ceci nous prouve que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu abroger tous les messages qui l'ont précédé. Et que c'est une obligation pour l'ensemble de l'humanité de suivre le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque renie son message, il renie également le message du prophète qu'il prétend suivre. La deuxième chose qui implique la foi au prophète et au messager alayhi salatu wa sallam, c'est de croire de manière particulière au prophète et au messager dont les noms nous ont été mentionnés dans les textes, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus, Nuh, Noé, et ainsi de suite parmi les prophètes et les messagers qui nous ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Et il y a également des prophètes et des messagers dont nous n'avons pas connaissance de leur nom. Alors eux, nous devons y croire de manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكِ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكِ » Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il y en a certains dont nous t'avons raconté l'histoire, et il y en a d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc cela, nous nous devons d'y croire de manière générale. La troisième chose qui est impliquée par la foi au messager, alayhimu salatu wassalam, c'est de croire à tout ce qui nous est rapporté de manière authentique à leur sujet, c'est-à-dire les histoires des prophètes et des messagers, alayhimu salatu wassalam, qui sont venus dans le Coran, et ce qui est venu dans la sunna authentique. Et enfin, le quatrième point qui est impliqué par la foi au messager, alayhimu salatu wassalam, c'est de se soumettre à la législation du prophète qui nous a été envoyé, c'est-à-dire en ce qui nous concerne la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, comme on a dit, a été envoyé à toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger leur désaccord et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se seront soumis complètement à ta sentence. Il est donc obligatoire pour nous de suivre la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la croyance au messager alayhi salatu wa sallam, elle a également de nombreux bienfaits. Parmi eux, le fait que tu sois conscient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, de l'attention qu'il porte à ses serviteurs. Médite sur le fait qu'il a envoyé des messagers afin de nous indiquer le droit chemin nous menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de nous montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. Quelles sont les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdites. Tout ceci, ce sont des choses que tu ne peux pas atteindre par ta raison. Mais ceci ne peut être connu que par la révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers dans ce noble but. Également, parmi les bienfaits de la foi au messager, il y a le fait que tu vas faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Car ceci fait partie des bienfaits les plus immenses qu'il nous a envoyé un prophète, un messager, alayhi salatu wassalam, afin de nous montrer la voie droite menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, parmi les bienfaits de la foi au messager, il y a le fait, comme on a dit, que tu aimes les messagers, alayhi salatu wassalam, que tu les respectes, que tu fasses leurs éloges, d'une manière qui correspond à leur rang. Car, comme on a dit, ce sont des messagers. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Ils ont transmis son message. Ils ont conseillé les serviteurs. Toutefois, ils n'ont aucun droit à l'adoration, car l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant au cinquième pilier, qui est la foi au jour dernier. Le jour dernier, cela désigne le jour de la résurrection. C'est-à-dire le jour durant lequel les gens seront ressuscités afin d'être jugés et rétribués en fonction de leurs œuvres. Et ce jour, il est appelé le jour dernier, car il n'y aura pas d'autre jour après lui. Car après ce jour, les gens se diviseront en deux groupes. Un groupe ira au paradis pour y demeurer éternellement, et un groupe ira en enfer pour subir le châtiment de manière éternelle. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les habitants du paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Et la foi au jour dernier, elle comprend différentes choses. Premièrement, la foi en la résurrection. La résurrection qui désigne le retour des morts à la vie. Et ce lorsque l'ange Israfil alayhi salam soufflera une seconde fois dans la trompe et que les gens sortiront de leur tombe, se lèveront pour Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et à ce moment-là, ils seront pieds nus, sans aucun vêtement et non circoncis. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Tout comme nous avons fait la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Donc la résurrection, c'est une vérité qui est prouvée par le Coran, par la sunna authentique et à l'unanimité des savants de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Puis après cela, vous mourrez. Ensuite, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le jour de la résurrection, les gens seront ressuscités, nus et incirconcis. Et la résurrection, c'est une conséquence de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car de par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses créatures un moment où elles reviendront vers lui subhanahu wa ta'ala. Et ce dans les buts de les rétribuer en fonction de leurs œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Donc ceci est la première chose fondamentale qui est comprise dans la foi au jour dernier, la foi en la résurrection. Deuxièmement, il y a la foi au jugement et à la rétribution. C'est-à-dire que le serviteur sera jugé pour ses actes et il sera rétribué en fonction de cela. Il y a de nombreuses preuves à ce sujet dans le Coran et la Sunna authentique, et ceci est reconnu à l'unanimité des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum » Vers nous est leur retour, ensuite c'est à nous de leur demander compte. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala « Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man ja'a bil sayyati fala yujaza illa mithlaha, wa hum la yudlamun » Quiconque viendra avec une bonne action, on aura 10 semblables à elle. Et quiconque vient avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice, ils ne seront point lésés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc au jour de la résurrection, chacun d'entre nous sera jugé en fonction de ses œuvres et rétribué en fonction de cela. Et ceci est une conséquence, comme on a dit également, de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a révélé les livres, envoyé les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam, et légiféré pour ses serviteurs d'accepter ce message et de s'y soumettre. Donc il va de soi qu'il va récompenser ceux qui se sont soumis à ce message et qu'il va châtier ceux qui ont refusé de suivre ce message. La troisième chose qui est comprise par la foi au jour dernier, c'est la foi au paradis et à l'enfer, qui sont les destinations finales et éternelles des créatures. Le paradis est la demeure des délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants vertueux, ceux qui croient en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé comme croyance, ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux dont les œuvres sont sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là auront pour rétribution le paradis pour y demeurer éternellement. Ce paradis dans lequel on y trouve comme délice ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'aucun homme ne peut s'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et l'enfer, c'est la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée en guise de châtiment pour les serviteurs mécréants. Ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et mécru en ses prophètes alayhim salatu wassalam. Et il y a dans l'enfer de nombreuses sortes de châtiments que l'on peut s'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre وَاتَّقُ النَّارُ أَلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc ceci sont les trois choses principales comprises par la foi au jour dernier. Et de manière générale, la foi au jour dernier, elle englobe tout ce qui a lieu après la mort. À commencer par l'épreuve de la tombe, c'est-à-dire les questions qui seront posées aux morts après être enterrés. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala raffermira les croyants par une parole ferme. Ils répondront alors, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les mécréants répondront à ces questions, ha ha, je ne sais pas. Et les hypocrites répondront, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire certaines choses et je les ai répétées. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir au moment de l'épreuve de la tombe. Également entre dans la foi au jour dernier le châtiment de la tombe, ou alors ses délices. Car en effet, il y a certains qui subiront des châtiments dans leur tombe, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, et d'autres qui jouiront de ses délices. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux-là. Et le châtiment de la tombe, il va toucher qui? Il va toucher les injustes parmi les hypocrites et les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, au sujet de Pharaon et de ses suiveurs, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où leur arrivera, on dira, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Quelle est la preuve du châtiment de la tombe dans ce verset? La preuve est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de Pharaon, de ses suiveurs, des gens de Pharaon, qu'ils sont exposés matin et soir au feu. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ. Et au jour où l'heure arrivera, on leur dira, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. C'est-à-dire un châtiment plus dur encore. On voit donc que avant l'heure, ils sont déjà châtiés. Et ce châtiment est le châtiment de la tombe. Et les délices de la tombe, ils sont réservés aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se sont tenus sur le droit chemin, les anges descendent sur eux et ils leur disent, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Donc ceci est un résumé des choses comprises par la foi au jour dernier. Entre également la foi en la balance, la foi au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi au sirat, la foi au pont, et ainsi de suite parmi les choses qui nous ont été rapportées de manière authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui ont lieu après la mort. Et cette foi au jour dernier, elle a de nombreux bienfaits pour le serviteur. Parmi ces bienfaits, il y a le fait que ça va te pousser à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et à être assidu dans les actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en espérant obtenir la récompense du paradis au jour dernier et jouir des délices de la tombe. Celui qui désire le paradis, il se doit d'agir en conséquence et d'œuvrer pour obtenir ce paradis. Et ce, en se soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les bienfaits, cela va faire naître dans ton cœur la peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque tu vas te rappeler du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer, ceci va te pousser à t'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, par peur du châtiment de la tombe, par peur du châtiment de l'enfer qui font partie du châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige à ceux qui lui désobéissent. Donc ceci va t'aider à t'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, lorsque tu penses à l'au-delà et à la vie éternelle, cela te réconforte face aux épreuves que tu peux vivre ici-bas à cause de ta foi. Des épreuves que tu endures sur le chemin de la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des difficultés que tu endures en raison de ta pratique rigoureuse de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles que cette vie est éphémère, qu'elle ne dure en réalité que très peu de temps, et que derrière cette vie, il y a une vie éternelle. Donc, ceci réconforte le croyant et l'aide à rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à s'accrocher à sa religion, qui est la chose la plus importante qu'il possède. Car en restant ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu obtiendras bi'idhnillah le paradis éternel qu'il a promis à ses serviteurs croyants. Enfin, le sixième pilier est la foi au destin. Comme le dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et que tu crois au destin qui vient d'Allah, qu'il soit bon ou mauvais. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné toutes choses. Et ce, de par son savoir et ce qui découle de sa sagesse. Et la foi au destin, elle est composée de la foi en quatre éléments principaux. Premièrement, le fait que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses, de manière générale et de manière détaillée. Parmi les choses passées, parmi les choses présentes, parmi les choses futures, et même parmi les choses qui ne se passent pas, Allah subhanahu wa ta'ala sait si elles se passeraient, comment elles se passeraient. Et cela aussi bien en ce qui concerne ses propres actes, ou bien les actes de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est que tu crois en l'écriture. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses, ces choses qu'il sait, sur al-lawh al-mahfouz, tablette préservée. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ces deux premiers points, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela est bien facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le recueil authentique de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhumah, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. La troisième chose, le troisième élément de la foi au destin, c'est que tu crois que tout ce qui existe n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit ses propres actes ou les actes de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ses propres actes, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَا. Et Allah fait ce qu'il veut. Et il dit concernant les actes de ses créatures, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont fait que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Enfin, le quatrième élément de la foi au destin, c'est le fait que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Qu'il s'agisse de la chose en elle-même, ou alors de la manière dont elle a été créée, ses caractéristiques, ou alors de ses actes et de ses mouvements. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Allahu khaliku kulli shay. Allah est le créateur de toute chose. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah vous a créé, vous et ce que vous faites, c'est-à-dire vous et vos actes. Et le fait d'avoir foi au destin, cela ne s'oppose pas avec le fait que le serviteur, il possède une volonté et une aptitude à agir de lui-même. En effet, cela est prouvé par les textes ainsi que par la réalité. On trouve dans les textes la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sujet de la volonté des créatures, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Que celui qui veut cherche refuge auprès de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre donc que le serviteur a une volonté. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Et d'un point de vue concret, chacun d'entre nous sait qu'il a une volonté, une aptitude d'accomplir un acte ou de le délaisser. Tu sais faire la différence entre un acte que tu accomplis de ton plein gré, comme par exemple le fait de te lever, de marcher, de courir, ainsi de suite, et les actes que tu accomplis malgré toi, comme par exemple lorsque tu es malade, que tu vas trembler. Tu sais faire la différence entre ces deux types d'actes. Donc cela te montre que tu as une volonté. Toutefois, cette volonté, elle est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que rien ne se passe dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait permis. Et parmi les points importants à souligner ici, il y a le fait que la foi au destin, ce n'est pas une chose permettant au serviteur de justifier ses mauvaises actions, comme les obligations qu'il a délaissées ou les interdits qu'il a transgressés. En effet, il y a certains qui font des péchés et puis ils te disent « Qaddar Allah, c'est Allah qui l'a décrété. Si Allah l'avait voulu, je ne l'aurais pas fait. » Comme s'il n'avait pas eu le choix. Et ceci a clairement été rejeté par les textes. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas une personne parmi vous sans que sa place soit déjà inscrite au paradis ou en enfer. » Alors un homme parmi les personnes présentes s'est levé et a dit « Alors devons-nous délaisser les actes au messager d'Allah ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Non, agissez, car chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. » Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Layl, « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Celui qui donne et craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie vers le plus grand bonheur. Quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie vers la plus grande difficulté. » Donc chacun est facilité pour ce pourquoi il a été créé. Et tu peux méditer à ce sujet sur les choses de ce bas monde que tu désires ou celles que tu ne désires pas. Lorsque tu désires une chose, tu lui accordes une attention particulière. Tu vas chercher à l'obtenir. Tu vas faire toutes les causes te permettant de l'atteindre, et ce de ta propre volonté. Tu ne vas pas délaisser les choses qui te sont profitables, parmi les nourritures, les boissons et ainsi de suite, puis dire « c'est Allah qui m'a décrété cela, de ne pas les obtenir ». Alors il en est de même en ce qui concerne l'au-delà. Comment peux-tu délaisser la voie droite qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, désobéir à Allah, transgresser ses ordres, commettre ses interdits, puis dire « c'est Allah qui m'a décrété cela ». Imagine qu'une personne soit face à deux chemins. Un chemin mène à un endroit dans lequel il y a des crimes, il y a des vols, où règne la peur, la faim, la soif, où l'honneur des gens est transgressé. Et l'autre chemin, il mène vers un endroit où règne l'ordre et la sécurité, où les gens et leur honneur et leurs biens sont préservés. Cette personne qui se retrouve face à ces deux chemins en connaissance de cause, quel chemin elle va emprunter? Elle va emprunter le chemin menant à l'endroit où règne l'ordre et la sécurité. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et personne ne va emprunter le premier chemin, puis dire « c'est à cause du destin, c'est Allah qui m'a décrété cela ». Mais il fait cela de sa propre volonté. Donc il en est de même en ce qui concerne l'au-delà. Tu as le choix. Allah subhanahu wa ta'ala t'a clarifié le chemin menant au paradis, et il t'a clarifié le chemin en enfer. Et ensuite c'est toi de par ta propre volonté qui choisis, ou bien le chemin de l'enfer, ou bien le chemin du paradis. Et parmi les arguments les plus convaincants à ce sujet, il y a le fait que si une personne te vole tes biens, ou te frappe, et que tu vas ensuite te plaindre de cette personne, en lui reprochant de t'avoir volé ou de t'avoir frappé, et ainsi de suite. Imagine-toi que cette personne se justifie en disant « ce n'est pas de ma faute, c'est Allah qui a décrété cela ». Est-ce que tu vas accepter d'elle cette excuse? Il n'y a pas de doute que tu ne vas pas accepter cette excuse, en aucun cas. Donc il en est de même en ce qui concerne les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment pourrait-on accepter qu'une personne délaisse les ordres d'Allah, transgresse ses interdits, puis dise « c'est le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala ». Il est d'ailleurs rapporté qu'un voleur fut présenté à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Alors le voleur dit à Omar « ô prince des croyants, j'ai volé par décret d'Allah ». Alors Omar, radiyallahu ta'ala anhu, de lui répondre « de la même manière, nous te coupons la main par décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala ». Ceci était donc quelques questions concernant la foi au destin. Et cette foi au destin a de nombreux bénéfices pour le serviteur. Parmi ces bénéfices, il y a le fait que cela va t'aider à placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas t'en remettre aux œuvres que tu accomplis. Mais tu sais que tout ce que tu fais ici-bas, tu le fais par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela a été prédestiné. Donc, en ce qui te concerne, tu fais les causes pour atteindre tes objectifs, puis tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les bénéfices de la foi au destin, il y a le fait que ceci t'aide à ne pas être pris d'orgueil. C'est-à-dire lorsque tu atteins des bonnes choses, un haut rang ici-bas, ou alors que tu arrives à accomplir certaines adorations, tu te rappelles que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a prédestiné cela, et que tu n'as pas de quoi t'enorgueillir, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité pour accomplir ses œuvres, tu te dois donc d'être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Et enfin, parmi les bénéfices de la foi au destin, il y a le fait que le serviteur, en ayant la ferme conviction que tout ce qui lui arrive provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ceci a été prédestiné avant même qu'il ne soit créé, alors il se satisfait de cela. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, qu'il soit dans l'aisance ou dans la difficulté, car il a la ferme conviction que ceci fait partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ceci ne peut être repoussé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, et ce, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, et que vous ne vous exultiez pas pour ce qui vous a donné, et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de vanité. Ce que tu as obtenu, tu sais que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu n'es pas pris de vanité à cause de cela, et ce que tu subis comme épreuve et comme difficulté, tu sais également que ceci est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu ne te tourmentes pas, et tu patientes face à cela. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, l'affaire du croyant est étonnante. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il en tire un bien. Et on ne trouve cela que chez le croyant. S'il se trouve dans l'aisance, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et lorsqu'un malheur le touche, il patiente et ceci est aussi un bien pour lui. Et ceci est un fruit de la foi au destin. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.